Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue, merci d'être toujours fidèle à Métropole et vous. La rentrée est l'occasion de faire un point sur les grands projets que mène Toulouse Métropole, qu'ils soient bien avancés ou encore en phase d'ébauche ou de démarrage. Nous en avons déjà abordé quelques-uns dans cette émission, comme la troisième ligne de métro, la Smart City ou l'aménagement du centre de Toulouse. Nous consacrerons prochainement des numéros au chantier du nouveau parc des expositions et à Toulouse Aerospace. Et puis il y a un autre grand projet, bien avancé mais encore en cours, dont nous voulions parler alors que nous vivons une des périodes de l'année les plus agréables qui soit pour se balader sur les bords de la Garonne. Ce projet, vous l'aurez deviné si vous suivez l'actualité métropolitaine de près, c'est le Grand Parc Garonne à qui cette émission est entièrement consacrée. Pour évoquer le Grand Parc Garonne, ses grands axes et ses objectifs, nous avons la chance de recevoir une des personnes à qui ce projet tient le plus à cœur, et pour cause puisqu'il le porte en grande partie, Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, est aujourd'hui l'invité de Métropolez-vous. Merci infiniment Monsieur le Président pour l'honneur que vous nous faites en participant à cette émission. Inutile de rappeler votre attachement à Toulouse, la ville où vous êtes né et que vous n'avez presque jamais quitté. En revanche, je voulais vous poser une question plus personnelle en préambule de notre échange. Pour l'enfant de Toulouse que vous êtes, qu'est-ce que représente la Garonne ?
Ah ben la Garonne c'est Toulouse, il n'y a pas de Toulouse sans Garonne et quand on est Toulousain d'origine, ce qui est mon cas, on a forcément des souvenirs d'enfance qui sont liés à la Garonne. Mes parents m'ont dit, je m'en souviens pas bien sûr, que c'est au bord de la Garonne que j'ai fait mes premiers pas, quand j'avais un an environ, sur la prairie des Filtres, voilà. Et donc, on a tous des souvenirs d'enfance, et puis au-delà de l'enfance, bien évidemment, de promenades au bord de la Garonne. Hein. La Garonne, c'est un élément clé, fondamental de l'identité de la ville.
Et est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez le temps, malgré votre agenda, que j'imagine très chargé, d'aller vous balader au bord de la Garonne ? Est-ce que vous avez des coins privilégiés, préférés pour ça ?
Je mentirais si je disais oui à votre question, mais j'aurais bien aimé répondre oui. J'ai plus le temps malheureusement, donc j'y vais à l'occasion d'événements en réalité. Quelquefois, heureusement, il m'arrive d'aller dîner ou déjeuner en bord de Garonne. En plus, on a créé il y a 2 ans un restaurant flottant au bord du quai de Tounis, dans le cadre justement de ce projet Grand Parc Garonne. Donc évidemment, j'y suis allé. Mais bon, on a tous des souvenirs et on a, je crois, effectivement, quand on est Toulousain, on a un coin préféré au bord de la Garonne. Le mien se situerait plutôt autour de la Dorade, bord de la Dorade.
Oui, coin très agréable parmi d'autres des bords de Garonne. Merci d'avoir ainsi témoigné de votre relation avec la Garonne. Donc, il va être beaucoup question dans cette émission, cela va sans dire. Nous allons y revenir dans quelques minutes. Dans les médias, nous retrouvons Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Une information d'importance pour commencer ce flash, les grands élus du Sud-Ouest cherchent toujours des solutions pour amener sur notre territoire la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse et la financer.
Une réunion de travail a eu lieu d'ailleurs mardi 5 septembre en présence d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, en présence d'Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, d'Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie, et vous-même, Jean-Luc Moudinc, président de Toulouse Métropole. À l'ordre du jour, les montages financiers possibles pour réaliser ce projet, alors que le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, répétait encore la semaine dernière que cette ligne grande vitesse n'était pas une priorité, faute de moyens.
Dans la métropole toulousaine, l'espace urbain a la reconquête de ses poumons verts.
Vous le savez, avec le transfert du parc des expositions à partir de 2020, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour transformer l'île du Ramier en un vaste parc urbain dédié à la nature, à la culture et aux loisirs. Depuis le 20 juin, une concertation a été lancée et se prolonge jusqu'au 5 décembre. Ce grand parc Garonne, qui s'étend sur 32 km et 7 communes, doit renouer avec les bords de la Garonne. Cette concertation doit permettre de préciser des axes forts comme la préservation de la nature et de la biodiversité, les activités du parc avec le sport, loisirs ou encore la culture et les sujets d'accessibilité et des mobilités. Vous pouvez partager vos souhaits et vos idées en contribuant à la réflexion sur le site internet de Toulouse Métropole.
Dans un registre très différent, le réseau de froid du quartier de la Cartoucherie à Toulouse a été inauguré.
Ce réseau est alimenté à 100% par la valorisation énergétique des déchets de l'usine d'incinération du Mirail. Il dessert aujourd'hui dans le quartier en développement de la Cartoucherie, l'école régionale de santé et 7000 m² de bureaux. À l'horizon 2025, il doit alimenter 54 000 m² supplémentaires de locaux administratifs. Il s'agit du premier réseau de froid en France.
Une secte très étrange maintenant, la tribu de l'Homo Numericus se rassemble à Toulouse avec la mêlée numérique.
Oui, c'est le festival annuel favorisant les rencontres et découvertes liées à l'innovation. En 2016, la mêlée numérique a accueilli plus de 6000 visiteurs, 80 startups et des centaines de conférences. Cette année, la 20e édition aura lieu du 18 au 24 septembre dans la Ville Rose. Ce festival de l'Homo Numericus attend 7000 visiteurs issus de startups, de grands groupes, des PME, des administrations, mais aussi des indépendants, chercheurs et curieux. La mêlée propose 120 conférences, tables rondes et ateliers qui explorent les thématiques actuelles de l'entrepreneuriat, des technologies, de la recherche et des formes d'économie collaborative.
Finissons ce flash avec un petit changement dans l'organigramme de Toulouse Métropole. Votre épouse, Monsieur le Président, Blandine Moudin, qui jusqu'alors chef de cabinet, va démissionner.
Et la raison est assez simple, il s'agit d'appliquer la nouvelle loi Belloubé de moralisation de la vie publique qui interdit les emplois familiaux de collaborateurs pour la famille proche, c'est-à-dire conjoint, partenaire de PACS, concubin, parents et enfants, mais aussi ceux du conjoint, partenaire du PACS, concubin, pour les ministres, parlementaires et exécutifs locaux, peine tout de même de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Voilà, alors Jean-Luc Moudin, je crois que dans ce flash d'actualité de la semaine, toutes les informations intéressent à divers titres le président de la métropole que vous êtes. La dernière évidemment, peut-être pouvez-vous donner quelques précisions concernant celle-ci. Ce terme de démission de votre épouse, de votre cabinet, est-ce qu'il est approprié?
J'attends de voir le texte. Il faut que maintenant que le Conseil constitutionnel l'a validé, le texte soit promulgué au journal officiel. Et donc le texte, évidemment, nous l'appliquerons sans problème. Simplement, il faut connaître, puisque tout cela est extrêmement nouveau, il faut connaître les modalités. Est-ce qu'il s'agit d'une démission? Est-ce qu'il s'agit d'un licenciement? Quels sont les délais? Quelles sont les conditions? Tout ça, j'attends de le savoir lorsque le texte sera officiel.
Autre information très importante pour la métropole toulousaine, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Donc cette réunion de travail du 5 septembre, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, ça c'est incontestablement une question beaucoup plus importante pour l'avenir de nos concitoyens. Effectivement, nous sommes montés au créneau, la présidente de région Occitanie, Carole Delga, le président de la métropole de Bordeaux, Alain Juppé, et le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Tous les quatre, nous faisons bloc pour demander à l'État de respecter sa promesse. Nous avons inauguré le 1er juillet dernier le Tour Bordeaux en grande vitesse. Or, il faut rappeler que ce qui a été convenu officiellement, c'est que Tour Bordeaux n'est pas un projet en soi. C'est une étape d'un projet plus grand, mais un seul et même projet qui va jusqu'à Toulouse. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les collectivités locales de l'ancienne région Midi-Pyrénées ont financé à hauteur de 280 millions d'euros la branche Bordeaux-Tours, parce que justement, ce n'était qu'une étape vers Toulouse. Donc nous avons demandé à l'État de respecter sa parole. Et puis ensuite, nous demandons à Emmanuel Macron de respecter également sa parole. Il y a quelques mois à peine, il était candidat, il a pris des engagements très très clairs. Il y a des déclarations à la radio, il y a une déclaration écrite sous forme de communiqué de presse le 23 mars. En réalité, bien évidemment, nous n'acceptons pas la perspective que la grande région toulousaine, Occitanie, soit celle qui soit la seule à l'écart du réseau de grande vitesse national et européen. D'abord parce que c'est injuste et puis parce que ça serait paradoxal. Nous sommes, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, l'agglomération française qui crée le plus d'emplois, qui connaît le plus fort développement démographique. Et lorsqu'on regarde la carte de la LGV aujourd'hui en France, on s'aperçoit qu'il y a des villes et des agglomérations qui ont la LGV, alors qu'elles n'ont pas notre poids démographique ni notre dynamisme économique. Donc c'est une question de rationalité. Et puis nous sommes à l'heure de la transition énergétique et le train à grande vitesse, ça consomme beaucoup moins de rejets dans l'atmosphère, de rejets qui sont nocifs pour la planète, notamment par rapport aux enjeux du réchauffement climatique dont on voit les dégâts, que les trajets actuels qui se font en avion ou en véhicule particulier. Donc effectivement, nous sommes montés au créneau et nous avons fait des propositions à la ministre avec des financements innovants, parce qu'on est bien conscient que l'État a des difficultés financières, on le sait d'autant plus et on le comprend d'autant plus que nous-mêmes, les collectivités locales, nous en avons. Donc à partir de là, il faut faire un effort d'imagination. Et ce que nous proposons à l'État, c'est de transposer pour ce projet les règles dérogatoires sur le plan juridique, sur le plan fiscal, qu'il a mis en œuvre pour le Grand Paris. Je ne vois pas pourquoi on maintiendrait pour les franciliens, les 10 millions de franciliens, 25 milliards d'investissements pour les transports, et que, en même temps, on refuserait aux Aquitains et aux Occitans, 12 millions, un investissement qui au total représente 10 milliards, c'est-à-dire bien moins que les 25 milliards pour l'Île-de-France.
Oui. Et puis il serait extraordinaire tout de même que Toulouse soit la seule grande métropole française qui n'ait pas une ligne à grande vitesse vers Paris. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Après ce flash d'information, nous allons revenir au sujet de cette émission qui est, je le rappelle, le Grand Parc Garonne.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, l'invité de ce numéro. Ce chantier du Grand Parc Garonne, piloté et imaginé par Johan Busquets, a été lancé en 2014-2015. C'est vraiment un projet typiquement métropolitain, puisqu'il traverse sept communes riveraines du fleuve. Je rappelle les communes en question, de Lamont vers Laval, Toulouse, Blagnac, Beauzelle, Fenouillet, Seille, Gagnac-sur-Garonne et Saint-Jory. L'espace concerné par le projet représente tout de même 3000 hectares, 32 km de linéaire, des espaces très urbains et d'autres qui sont moins, encore quasi sauvages pour certains. Un chantier immense donc, et un projet qui engage à grande échelle la métropole et ses communes en termes de financement et dans la durée. On va entrer dans le détail dans quelques instants. Mais avant cela, compte tenu de son importance, est-ce que ce projet, ou en tout cas certaines de ses parties, a fait l'objet au départ de discussions, de groupes de réflexion citoyens, de débats avec des spécialistes, des architectes paysagistes, des associations? Et est-ce que ça continue ces discussions?
Alors, tout est parti d'une délibération du conseil municipal que j'avais fait voter lorsque j'étais maire la première fois, très précisément en 2007. À l'époque, l'idée c'était de réaménager les bords de la Garonne, les berges de la Garonne, dans Toulouse. Et puis, quelques années après, mon successeur Pierre Cohen a étendu cette réflexion à 6 autres communes de la métropole. Et donc maintenant, on a un schéma directeur qui concerne les 7 communes que vous avez citées. Alors bien évidemment, tout ça a donné lieu à des réflexions des élus, des services techniques, des urbanistes. On a justement fait appel à des urbanistes pour mettre en œuvre à nos côtés ce très très beau projet. Que ce soit Joanne Busquets dans la partie toulousaine, puisque tout ça est au contact de tout ce que l'on fait pour la mise en valeur et l'embellissement du centre-ville de Toulouse. Henri Bava pour la partie qui est à fort enjeu de l'île du Ramier, vous en avez parlé. Et bien évidemment, chaque fois que l'on met en œuvre tel ou tel volet de ce projet, parce que c'est un grand projet, donc comme tous les grands projets, il ne se fait pas en claquant des doigts, il se fait année après année. Chaque fois, il y a évidemment des concertations qui sont menées avec les riverains concernés, avec les quartiers concernés, les comités de quartier qui sont les plus concernés par chacune des réalisations. Et puis, comme il y a un très fort enjeu nature, et qu'un des objectifs que nous poursuivons, c'est justement de mettre en valeur le patrimoine et le patrimoine naturel en particulier. Nous travaillons, avant de faire tous les projets, nous travaillons avec ce qu'on pourrait appeler les associations naturalistes. Il y a en bord de Garonne toute une biodiversité, toute une faune, toute une flore qu'il faut non seulement préserver à travers ce projet, mais même qu'il faut développer et mettre en valeur. Donc tout ça se fait de manière très précautionneuse. Et puis sur l'île du Ramier, où là il y a un enjeu très particulier, parce que l'île, elle est très utilisée, et elle va l'être encore, lorsque ce projet verra le jour. Là, on a lancé une concertation spécifique, vous l'avez dit, j'ai présidé une réunion de lancement le 20 juin, et nous avons des ateliers de travail thématiques qui vont se dérouler au cours des 4 mois à venir. où tout un chacun, citoyen, association, peut s'inscrire, peut participer pour donner ses idées. Et ça débouchera sur un schéma d'aménagement spécifique de l'île qui sera élaboré sur les années 2018-2019 en vue d'être mis en application à partir de la fin de l'année 2020 lorsque le parc des expositions aura déménagé.
Voilà donc un projet, un chantier immense, je l'ai dit, qui a donc forcément plusieurs dimensions. Vous avez cité au moins un des grands espaces concernés, hein, l'île du Ramier, mais il y en a d'autres. Alors quels sont les principaux espaces concernés par ce grand parc Garonne et les objectifs que vous poursuivez pour l'ensemble de cette réalisation ?
L'objectif, il est très clair. Il est d'aménager les berges de la Garonne pour que les habitants de la métropole et également les visiteurs et les touristes puissent en bénéficier, faire en sorte que ça soit plus pratique, plus beau, plus agréable. Pour l'aspect patrimonial, nous procédons à des restaurations. J'ai en particulier souhaité que ce qu'on appelle le mur digue de Sagé. Alors le mur digue de Sagé, les Toulousains le connaissent. C'est la photo que l'on voit sur la carte postale de Toulouse, c'est-à-dire ce mur en brique rose, qui est dans le cœur historique de Toulouse. C'est un mur qui a été édifié à l'époque à la demande du roi Louis XV, qui avait confié ça à un ingénieur qui s'appelait Joseph-Marie de Sagé. Donc c'est une réalisation qui a 2,5 siècles d'existence. C'est la plus ancienne digue de protection par rapport à la Garonne que nous ayons à Toulouse. Et j'ai souhaité que cette digue historique, qui n'a pas été rénovée depuis sa création, c'est-à-dire depuis 250 ans, bénéficie d'une rénovation. Donc il y a un enjeu de nature, il y a un enjeu d'espace public, il y a un enjeu patrimonial, il y a un enjeu d'image touristique et donc économique. Voilà, donc c'est une mise en valeur, c'est un embellissement et c'est également une affirmation de la nature en ville.
Donc Île du Ramier, Toulouse Centre, hein, c'est ce dont vous venez de parler, et puis Garonne Aval, les communes qui sont à l'aval de Toulouse. Est-ce qu'il y a aussi, parmi les objectifs poursuivis, de créer de nouveaux axes pour faciliter et développer les déplacements qu'on appelle doux, le vélo, la marche, éventuellement, je ne sais pas, peut-être à terme des navettes en bateau, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a aussi ça derrière ce projet?
Alors, il y a déjà des bateaux sur la Garonne. Après, la Garonne a une spécificité, c'est qu'elle est navigable une période de l'année et elle ne l'est pas à une autre période. Et tout ça est réglementé non pas par le maire de Toulouse ou le président de la métropole, mais par l'État, puisqu'il y a des dangers de crue. Et d'ailleurs, les Toulousains, je crois, connaissent bien.
Il y a des dates très précises à partir desquelles on ne peut plus effectivement
faire
certaines choses.
Ils connaissent bien tout ça. Voilà, donc tout ça avance progressivement.
Oui, alors il y aura aussi, je crois, la valorisation et rénovation des ports et quais de Garonne, hein, qui est incluse.
Alors, on a commencé par ça. J'ai souhaité qu'on commence par ça parce que il y a 3 ports au centre de Toulouse qui sont sur la Garonne, Saint-Pierre, la Dorade et le port Viguerie. Donc on a commencé, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, c'était en juin 2016, par la mise en service de la rénovation de la place Saint-Pierre, puisque le port Saint-Pierre est devenu place Saint-Pierre, la Dorade. Et en juillet dernier, nous avons continué par le port Viguerie, donc situé de l'autre côté, côté Saint-Cyprien, rive gauche. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a renforcé la présence végétale, on a planté beaucoup d'arbres, on a rénové ce fameux mur Sagé, ce qui fait que les Toulousains peuvent voir la différence entre le mur tel qu'il a été rénové à la Dorade ou port Viguerie, et puis tout le reste que nous allons rénover d'ici quelques mois. On va commencer chantier, et ça sera terminé fin 2019. On a également rénové l'éclairage public. On avait un éclairage qui était un petit peu vieux, qui alternait les zones d'ombre et les zones éclairées. Là maintenant, on a un éclairage qui est étal, qui est le même, qui donc éclaire l'ensemble du mur, et c'est très frappant à la Dorade. Et au port Viguerie, on a également mis des caméras de vidéoprotection, on a installé la Wi-Fi, on a refait le mobilier urbain, bref, on a tout remis à niveau dans le sens de la qualité pour rendre les lieux plus agréables et pour renforcer la fraîcheur. Vous savez, nous vivons cette période très angoissante du réchauffement climatique. Les villes connaissent, subissent ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Il fait plus chaud en général dans une ville qu'ailleurs. Et donc ce que je souhaite, moi, c'est qu'à travers tous les aménagements urbains que nous faisons, nous ayons désormais un réflexe vert en quelque sorte, et que nous en profitions pour renforcer la trame végétale, c'est-à-dire la présence des arbres et des espaces verts en ville, pour justement opposer aux îlots de chaleur des îlots de fraîcheur.
Est-ce qu'il y a aussi le souhait de développer le tourisme et les loisirs verts à travers ce projet ? Est-ce que c'est un des objectifs qu'il poursuit ?
Bien évidemment. Tout à l'heure, vous parliez des pistes cyclables, parce qu'effectivement, chaque fois que l'on peut, on développe des pistes cyclables. Les espaces nature, là je parlais de la réintroduction d'éléments naturels dans le paysage urbain. Il y a d'autres paysages en bord de Garonne que nous avons aménagés. Je pense à Gagnac, je pense à la zone de Sesquières où nous avons aménagé plusieurs hectares d'espaces verts en bord de Garonne et où très naturellement les promeneurs, les familles, les jeunes viennent pour passer des moments très agréables, alors qu'auparavant, c'était des espaces qui étaient naturels, mais qui n'étaient pas entretenus, un peu sauvages, et donc pas accessibles, et donc pas agréables à vivre. Voilà, donc on essaie d'être présent à la fois dans le centre-ville où il y a des enjeux patrimoniaux et, je le crois, climatiques, également dans des zones plus périphériques, moins urbanisées, et qui sont d'ailleurs des zones très étonnantes. Quand on va se balader vers Seille, vers Gagnac, vers Saint-Jory, on découvre une réalité qui est presque sauvage. À quelques kilomètres de Toulouse, ce sont les berges de Garonne dans ces communes-là. Ces communes ont gardé une dominante rurale, et donc forcément, autour du fleuve, c'est pas la ville qui s'est développée, c'est la nature. Ce sont des espaces boisés très développés, très, très denses. Nous avons donc simplement, et nous continuons, à aménager pour les rendre accessibles et pratiques.
Voilà, donc il y a des connexions vers le lac de Sesquières, vers le lac des Quinsoles, vers le canal du Midi, bien sûr, et donc vers les zones naturelles dont vous venez de parler. Alors justement, la dimension environnementale du projet, la protection de sites, d'espèces, est-ce qu'il y a aussi des vertus, j'allais dire presque pédagogiques, derrière le projet, c'est-à-dire faire connaître aux métropolitains la richesse de la faune et de la flore autour de la Garonne, et puis aussi leur faire prendre conscience de la fragilité de ces espaces.
Oui, le volet pédagogique du projet mérite qu'on insiste un peu. Pédagogique de tous les points de vue. Alors, du point de vue que vous avez indiqué, c'est-à-dire du point de vue de la nature, puisque forcément, quand on a un fleuve et quand autour de ce fleuve on a des espaces naturels, eh bien, il y a une faune, il y a un biotope, il y a des espèces d'oiseaux. Et donc, nous nous sommes attachés, chaque fois que nous avons aménagé, et nous nous attachons chaque fois que nous aménageons, à mettre des, ce qu'on appelle des cartels, c'est-à-dire des petits panneaux explicatifs, pour que toutes celles et ceux qui viennent là, que ce soit des familles, des individus, des touristes, des classes, hein, il y a des classes qui viennent de plus en plus, maintenant que nous avons aménagé des endroits qui n'étaient pas accessibles auparavant. Voilà, que tous ceux qui viennent là aient la possibilité de recevoir une information, d'apprendre quelque chose et de découvrir la richesse de la faune des bords de Garonne. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas forcément. Et dans le même esprit pédagogique, c'est plus vrai, bien évidemment, sur la partie historique dans Toulouse. Nous développons une information sur l'histoire des ports, l'histoire de la construction de ces digues, les activités économiques qu'il y avait autrefois, les pêcheurs de sable du début du XXe siècle, les inondations également, qui font partie de l'histoire du fleuve et qui ont impacté à tel ou tel moment la ville. Et donc il y a des panneaux explicatifs. Franchement, j'ai souhaité qu'on ne soit pas avare d'explications, hein, qu'il n'y ait pas deux, trois mots, que vraiment on puisse apprendre des choses. Ces panneaux sont illustrés pour être agréables, et je crois que tout cela est très apprécié. Ça permet aux Toulousains de redécouvrir à la fois leur patrimoine historique et naturel, de redécouvrir tel ou tel épisode de l'histoire de la ville, et puis ça ancre également des visiteurs et des touristes.
Est-ce que le Grand Parc Garonne n'est pas d'une certaine manière aussi un prolongement naturel du projet d'aménagement du centre de Toulouse, et donc peut-être aussi une pierre à l'édifice pour le classement de celui-ci au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Forcément, les deux projets sont d'inspiration voisine. J'avais souhaité également, en 2007, que nous nous dotions d'un plan d'aménagement du centre-ville et un certain nombre de réalisations voient le jour dans cet esprit. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'embellir le centre historique de Toulouse. Pour cela, de chasser des stationnements qui sont devenus peu agréables, de donner plus de place aux piétons, de favoriser ce qu'on appelle les modes doux ou les modes actifs, de planter des arbres. Également, alors on a inauguré il y a quelques mois la nouvelle rue des Lois, qui est totalement dans cet esprit et qui se trouve revalorisée, alors que c'était une rue un peu sombre, un peu oubliée, qui avait beaucoup vieilli. À la fin de ce mois, j'inaugurerai la nouvelle rue Bayard. La rue Bayard, c'est une rue qui était un petit peu mise de côté, ou voire même connotée assez négativement à Toulouse. Eh bien, nous l'avons embellie, rénovée. Là aussi, on a planté des arbres. Là aussi, on a raréfié le stationnement pour donner plus de place aux piétons. Et nous poursuivons par les allées Jean Jaurès. Là, c'est un aménagement très, très, très lourd, mais qui va là aussi donner plus d'espace aux piétons et plus de place à la nature en ville. Les abords de la gare Matabio. Nous avons entamé, il y a quelques semaines, la rénovation de la rue Gambetta, qui sera terminée à l'automne 2018. Nous avons entamé également les premiers travaux pour la rénovation de la place du Salin. Donc là aussi, rendez-vous fin 2018. Donc effectivement, tout ça est lié. Il s'agit de donner une nouvelle image de Toulouse et que Toulouse, dans la partie la plus patrimoniale, soit plus agréable à vivre pour les Toulousains, pour les habitants de la métropole, parce que vous savez, le centre-ville historique, à Toulouse comme ailleurs, ça appartient pas à ceux qui habitent, ça appartient à toute la grande agglomération. Et forcément, ce sont des endroits qui sont les plus visités, les plus partagés, donc c'est notre patrimoine à tous. Et puis, outre cette qualité de vie nouvelle, dans des espaces publics embellis, rénovés, végétalisés, que ces aménagements permettent pour les habitants ici, c'est forcément une nouvelle image de Toulouse pour les touristes et pour les visiteurs. Et moi, je souhaite qu'on développe le tourisme à Toulouse. Aujourd'hui, il y a dans le monde entier une tendance qui se développe, à savoir le tourisme urbain. De plus en plus, les gens voyagent et ils aiment découvrir les pays à travers les grandes villes. Donc il faut que les grandes villes s'adaptent à ça. Et Toulouse, aujourd'hui, malgré tout ce qui existe et la qualité des professionnels du secteur concerné, n'apparaît pas aux yeux des Français comme une destination touristique évidente. Il faut qu'elle le devienne. Ça prendra du temps. Mais ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Ça se fait par des réalisations, des aménagements qui prennent du temps. Et tout ça permettra effectivement, le moment venu à Toulouse, au passage, je dirais, de constituer, comme je l'ai souhaité, un dossier de candidature à l'UNESCO. On sait que le classement à l'UNESCO est devenu un combat très, très dur, très, très difficile, très sélectif pour les candidatures françaises, puisque la France est le pays qui bénéficie du plus grand nombre de classements et qu'à l'intérieur du pays, c'est la région Occitanie qui compte le plus grand nombre de classements. Donc, ça sera un dur combat. Ben, justement, il ne faut pas qu'on y aille les mains dans les poches, en sifflotant. Il faut que l'on ait donné des preuves de mise en valeur du patrimoine.
Donc il faut s'en donner les moyens. Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour votre venue dans cette émission, Jean-Luc Moudin, toutes ces précisions concernant le Grand Parc Garonne, un des principaux projets de votre mandat en cours à la présidence de Toulouse Métropole. On a pu voir au cours de cet échange que vous suiviez l'affaire de près et que vous lui accordez une très grande importance. La Garonne fait partie de l'identité métropolitaine. La plupart des habitants de la métropole toulousaine, lui, sont très attachés. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant cela. Raison de plus pour mettre en valeur ses abords, qu'ils soient urbains ou naturels. Faire connaître la beauté, les richesses de sa faune et de sa flore, tout en ayant bien à l'esprit que ceci est fragile et que le protéger est aussi notre affaire à tous. Pour en savoir plus sur le Grand Parc Garonne, vous pouvez consulter le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la rubrique Projet. Ce numéro de Métropole et vous est animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.